Nous accueillons notre invitée pour le dossier du jour, c'est Florence Servan-Schreiber, elle est professeure du bonheur, ça tombe bien, c'est notre sujet du jour, le bonheur, elle est aussi l'auteur du livre « 3 kiffs par jour » disponible en poche chez Marabout.
15h, 16h, sans rendez-vous sur Europe 1.
Bonjour Florence.
Bonjour.
Alors d'abord à cette époque de l'année, le bonheur, la vivacité, c'est pas facile quand même. Déjà il fait quand même un temps pourri en ce moment, hein, sur une bonne partie de la France. On va bientôt changer d'heure, les vacances d'été, on a l'impression qu'elles sont quand même bien loin, ça y est là, alors qu'on est que mi-octobre, fin octobre. C'est normal d'être un peu rap-la-pla à cette époque de l'année, de dire bon le bonheur là.
Non mais c'est vrai que nous abordons la période intéressante parce que ce qui modifie notre impression, hein, je dis bien l'impression parce que ça ne modifie rien au bonheur en vrai, ce sont justement ces transitions comme ça, quand tout à coup il se met à pleuvoir alors qu'il faisait beau, il se met à faire froid alors qu'il faisait chaud. On a l'impression que les circonstances changent et que la manière dont on se sent va changer. En fait, pas tant que ça, mais oui, c'est normal quand on regarde dehors de se dire « oh là là, c'est moins bien » et d'être tenté de se laisser aspirer un petit peu par le « c'est moins bien ».
Mais la météo, ça a un fort impact. On est plus heureux, on a plus de bonheur à Marseille qu'à Paris, par exemple. Il y a plus de soleil.
Alors non. Les gens qui vivent au sud ne sont pas plus heureux que les gens qui vivent au nord. Et d'ailleurs, vous savez, quand on fait ces classements, il y a un classement mondial du bonheur. Pour l'instant, on est toujours au Danemark.
Ah oui.
C'est au Danemark que les gens sont le plus heureux. Alors, on vous dit, mais il n'y a pas assez de lumière.
C'est pas là où il y a plus de soleil, pourtant.
Non, ouais. Il y a aussi pas mal de suicides. Enfin, oui, il y a tellement de facteurs que l'on va retrouver. Mais non, on n'a pas besoin de soleil pour être heureux.
Jimmy ?
Et bien d'ailleurs, qu'est-ce que c'est que le bonheur, en fait ?
Le bonheur, c'est une perception personnelle de la situation dans laquelle on se trouve. On peut dire ça comme ça. Il n'y a pas de définition, on ne va pas
universel,
dire...
Universel, on n'a pas le...
Non, parce qu'il y a du subjectif, il y a de l'objectif. Donc quand on mesure le bonheur d'un pays, par exemple, ce sont des mesures objectives. Quelle quantité d'arbres y a-t-il? Comment s'occupe-t-on des enfants? Quels sont les gardes d'enfants?
On ne peut pas le mesurer chimiquement en disant, tiens, elle est pleine de sérotonine, d'hormones d'amour, de machin. Et en faisant une prise de sang, on se dit, tiens, elle a du bonheur, lui, il n'en a pas. Non, ça, c'est pas possible.
Alors, en fait, la mesure du bonheur est toujours autodéclarative. Ça veut dire que je ne peux que vous poser des questions pour savoir si vous êtes heureuse ou heureux. Il n'y aura aucun instrument qui ne me dira si vous êtes heureux ou non.
Florence Servan-Schreiber, on va poursuivre cette discussion sur le bonheur dans un instant. Restez avec nous.
Europe 1.
Dans quelques minutes, on passe donc en quelque sorte à la pratique. On vous dira sur tous les moyens, quels sont les moyens pour atteindre le bonheur. Et vous verrez qu'il se cache parfois dans des mini-rikiki détails de la vie quotidienne. Et puis, une fois qu'on l'a trouvé, le bonheur, il faut l'entretenir. Le bonheur, ça demande de l'entraînement. Et oui, on va vous dire comment. A tout de suite sur Europe 1.
Mélanie Gomez sur Europe 1. Europe 1, Mélanie Gomez.
Nous sommes ensemble jusqu'à 16h pour votre émission Santé Bien-être, une émission sans rendez-vous. Vous êtes tous les bienvenus. À mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed et notre invité, la professeure du bonheur, Florence Servan-Schreiber. Alors, est-ce qu'on est tous égaux d'abord devant le bonheur, finalement ?
Nous sommes égaux devant rien du tout.
Ah oui.
Donc, bonheur compris. Alors, d'abord, il y a toujours évidemment des raisons un peu exogènes d'être heureux, les choses qui sont autour de nous. Mais même d'un point de vue tout simplement chimique, génétique, nous sommes tous différents les uns des autres. Et c'est vrai que la génétique a sa part aussi dans notre bonheur.
J'avais demandé des parents malheureux, donc qui ne vivent pas dans le bonheur, ça fait des enfants malheureux forcément qui ne vivent pas dans le bonheur, qui ne seront pas des gens qui vivent dans le bonheur ?
Alors là, il s'agit plus de l'éducation que des gènes, mais donc un parent heureux ne va pas garantir un enfant heureux parce que lui va avoir aussi ses propres mécaniques. Mais sur le plan vraiment physiologique, c'est vrai que génétiquement, nous ne sommes pas programmés exactement de la même façon pour éprouver le bonheur.
Jimmy ?
Le problème, c'est que le bonheur, ce n'est pas quelque chose de constant. On dit toujours qu'il y a des hauts et des bas. Est-ce qu'on pourrait faire en sorte qu'il n'y ait toujours que des hauts et comme une vie sans creux dans la vague ?
Là, il vous demande la recette parfaite.
Mais
hein, c'est
surtout
quoi
pas Mais ce serait l'enfer. Parce que ce qui permet
d'être heureux, l'enfer, non ?
Oui,
quand même.
Parce que ce qui permet d'être heureux, c'est le contraste. Ce qui fait que nous éprouvons de la joie et du bonheur, c'est parce que nous connaissons le malheur. Sinon, d'être juste joyeux et vivre comme ça, dans une espèce d'état un peu folichon en permanence, on ne se rend absolument plus compte de rien. Et à ce moment-là, ça devient encore plus difficile d'être heureux si nous n'avons pas de difficultés. Alors que grâce aux difficultés, quand ça va un tout petit peu mieux, déjà c'est formidable. Et à ce moment-là, ça donne de l'énergie, on a envie que ça continue et on a envie de s'en sortir. Donc, en fait, ce sont deux moteurs. Quand on est malheureux, on veut que ça s'arrête. Quand c'est bien, on a envie que ça continue. Ce qui est le contraire de tout ça, donc le contraire du bonheur, c'est quelque chose qui est au milieu, qui s'appelle l'apathie. et qui, cliniquement, je crois, s'appelle la dépression.
Bon, alors vous, j'imagine par contre que c'est un peu particulier. Vous êtes professeur du bonheur, donc vous devez être une vie tout le temps dans le bonheur, sans chronivague, hein, tout le temps.
Mais jamais, c'est, enfin absolument pas. C'est, les gens me demandent toujours ça, c'est marrant.
Vous avez toujours la banane et tout, on se dit, elle est toujours contente, alors, elle est toujours dans le bonheur.
J'ai la banane quand je viens vous voir, parce qu'en effet, c'est un tel plaisir de pouvoir parler de ça, mais j'ai une vie complètement normale. C'est-à-dire que comme vous, je vais me réveiller avec mes peines, mes difficultés, mes deuils, mes tragédies, mes doutes. Je suis une personne complètement normale. Et parce que peut-être je suis aussi habitée par un certain nombre de peurs, enfin tout comme nous le sommes, j'adore cette psychologie positive qui va aussi me permettre à moi de trouver des solutions pour que ça aille mieux.
Quand vous êtes dans le creux, ça vous arrive, bon ça va. Alors si même les professeurs du bonheur n'ont pas une vie que dans le bonheur, on est rassuré, Jimmy.
Et puis comment est-ce qu'on fait pour retrouver le bonheur ou le garder lorsqu'on fait face à des événements de la vie qu'on connaît tous ? La maladie, un deuil, un licenciement, une rupture amoureuse un peu difficile. Il y a un secret pour garder justement un peu la tête haute et essayer de ne pas couler ?
Alors, d'abord, il faut savoir qu'il y a quelque chose qui s'appelle être humain, qui consiste à éprouver des choses très difficiles et à pester, grogner, pleurer, s'inquiéter. Parce que quand il se passe quelque chose, quand il y a une rupture, bien évidemment, nous y sommes confrontés. Nous allons devoir traverser le tunnel. Mais c'est vrai qu'au bout du tunnel, on peut s'y prendre autrement. Et il y a beaucoup une question d'interprétation. Vous savez, dans notre capacité à être heureux, donc 40% est quand même génétique, hein, je tiens à le souligner, c'est-à-dire qu'il y a une aptitude dans le cerveau à générer, manufacturer ces fameux neurotransmetteurs, les endorphines, le cytocine, tout ce qui est en in, qui fait du bien, qui fait du bien au cerveau. Donc, on n'a pas la même taille de c'est un gène, hein, 5-HTT, on n'a pas la même taille. Plus il est long, plus on en sécrète, donc plus on va être d'un tempérament joyeux. Plus il est court, moins on en sécrète. Bon. Ensuite, il y a les conditions extérieures. Donc ça, c'est ce qui nous arrive. Donc en effet, un deuil vient s'abattre sur nous. On ne l'a pas choisi, on ne l'a pas prévu, on ne peut pas l'éviter. Mais quand même, on va pouvoir se rebrancher, lorsque nous serons prêts, il y a quand même une phase de deuil, sur les meilleurs aspects de notre vie. Et là, volontairement, on peut braquer, et ça va compter pour la moitié quand même de notre capacité à être heureux, on va braquer notre attention sur les choses qui vont pouvoir nous faire du bien.
Et c'est ça que vous apprenez aux gens, parce que vous faites des ateliers justement du bonheur, et vous leur apprenez quoi ? Une espèce d'entraînement ? C'est comme le sport, le bonheur ?
Oui, on expérimente, parce que les questions conditionnent les réponses. Vous savez, si dans votre vie vous cherchez à voir tout ce qui va mal, bien sûr vous allez trouver tout ce qui va mal. Mais si tout à coup je vous propose de chercher, ne serait-ce que dans une journée là, qui a l'air pas terrible, ou vous ne savez pas très bien où trouver, quelque chose qui a été formidable, vous allez le trouver. Et donc en effet, en s'obligeant un petit peu, eh bien, on goûte la différence que ça peut faire, et ça donne l'exercice nécessaire pour pouvoir continuer en dehors.
C'est votre technique, notamment des kiffs, on va en parler juste après, merci. Vous restez avec nous, Florence Avant-Schreiber.
Europe 1.
Dans quelques minutes, le bonheur n'aura plus de secrets, presque plus de secrets pour vous, grâce à notamment au kiff, aux 3 kiffs par jour, méthode génialissime, hein, mise au point par notre invité qui consiste le soir, avant de vous coucher par exemple, à vous remémorer votre journée et à lister au moins 3 kiffs. Tout ça contribue au bonheur, on va vous expliquer tout, comment ça fonctionne. Restez avec nous sur Europe 1.
Mélanie Gomez vous reçoit, sans rendez-vous sur Europe 1.
De retour sur Europe 1 avec le docteur Jimmy Mohamed et notre invité, la professeure du bonheur, Florence Servan-Schreiber. Alors Florence, je crois que pour être heureux, l'un de vos grands principes, c'est de soigner, c'est vous dites qu'il faut qu'on soigne en fait les relations qu'on a avec les autres. Ça veut dire quoi particulièrement ? Ça veut dire se concentrer uniquement sur les rapports avec sa famille, ses amis, ou c'est n'importe qui avec qui il faut soigner les relations ?
Alors, une source
son boulanger, son facteur.
Exactement. Son boulanger, son facteur, sa famille, ses amis, ses collègues, absolument tout le monde. On a beau tourner l'affaire dans tous les sens, à chaque fois qu'on essaye de comprendre ce qui rend les gens heureux à long terme, ce qui a donné du sens à leur vie, enfin absolument tout le temps, c'est toujours l'amour qui revient. Donc ensuite, on s'est demandé, mais est-ce que l'amour, ce ne sont que des relations romantiques ou des relations familiales ? Et non. En fait, ce qu'on appelle l'amour, c'est une interaction entre deux personnes pendant laquelle on se sent formidablement bien. Donc, on peut l'éprouver avec quelqu'un dans le métro qui va vous sourire, par exemple. Donc ça, c'est un moment tout à fait sympa.
C'est des micro-moments d'amour.
Un micro-moment d'amour. On peut rigoler avec son fils, c'est un micro-moment d'amour. On peut aussi être avec son chéri.
Aujourd'hui,
c'est
là, vous en avez eu, vous, des micro-moments
d'amour? Oui, j'en ai eu un, par exemple. J'ai rigolé avec mon fils tout à l'heure. Ouais, c'était génial avant de venir. On s'est vraiment poilé. En se moquant d'ailleurs d'un texto reçu de sa grand-mère. Ça nous a beaucoup fait rire. Mais voilà, c'est un moment partagé, c'est une connexion. Et si on regarde bien, ces connexions, nous pouvons les avoir absolument partout.
Jimmy ?
Oui, ces micro-moments d'amour, est-ce que le mécanisme ne serait pas un peu hormonal qui ferait qu'on aurait certains un peu plus que d'autres?
C'est le docteur qui parle de savoir s'il y a des hormones partout.
Non, mais c'est exactement ça. Ce que vous décrivez est le cas, parce qu'il y a une chercheuse américaine qui s'appelle Barbara Frederickson, qui est ma rockstar en psychologie, qui a identifié que pendant ces moments-là, nous sécrétons justement de l'ocytocine, qui est cette hormone de l'attachement, dit de l'attachement et du câlin. Et on pensait justement que cette hormone ne surgissait que lorsque l'on était avec des gens que l'on connaissait, que l'on se touchait, etc. Mais en fait, non. Il suffit de se parler et de passer un bon moment, peut-être comme nous le faisons là, peut-être que tous les trois, nous sommes en train de sécréter...
On a trois micro-moments d'amour en même temps, oui, là, c'est beau.
Oui, mais parce que c'est ça qui est formidable, c'est qu'en plus, ça se vit à plusieurs. Non seulement j'en bénéficie, mais la personne qui est en face de moi aussi. Donc, il y a un truc réciproque qui est absolument formidable.
Et alors, comment on fait quand on n'a pas d'amis? Parce qu'il y a quand même des gens, malheureusement, les pauvres, qui vivent dans la solitude absolue. Et comment, qu'est-ce qu'on peut leur conseiller à ces gens-là pour alors, les vivre quand même, ces micro-moments d'amour?
C'est ça la bonne nouvelle, c'est qu'on n'a pas besoin d'attendre le prince charmant pour vivre.
Quand on est célibataire, par exemple.
Alors, déjà, quand on est célibataire ou quand on vit seul, etc., dès qu'on sort dans la rue, c'est une décision, en fait, de se dire, on peut se dire, avant ce soir, j'aimerais en avoir vécu trois. Donc, ça veut dire que je vais faire attention dans la manière dont je vais interfacer avec quelqu'un. Je vais monter dans l'autobus, je vais dire bonjour au chauffeur en le regardant dans les yeux. On ne sait jamais. Il va peut-être me répondre quelque chose qui fait que nous aurons une interaction, qui fait que je vais repartir avec la banane. Vous savez, quand on sourit dans la rue comme ça, qu'on est de bon poil, c'est parce qu'on vient d'en vivre un. Et ils sont imprévisibles, mais on peut quand même décider d'être ouvert à ça.
C'est pas la même chose que les kiffs, hein, on en parlera juste après. C'est les micro-moments d'amour, c'est d'autres choses et on les provoque en journée, hein, c'est ça?
Oui, alors en journée, la nuit.
Oui, hein, nuit, si on est seul,
on peut appeler quelqu'un, si jamais. Ça. Non, en tout cas, ça suppose d'être avec quelqu'un d'autre, le micro-moment d'amour. C'est quelque chose, il faut être deux.
Et alors, les kiffs, justement, par contre, c'est quoi? Alors, vous avez inventé inventé le concept, la méthode, je sais pas. En tout cas, vous avez écrit un livre sur le sujet aussi qui s'appelle 3 kiffs par jour. C'est quoi vos kiffs? Comment on s'y prend pour voir tout ça et pour identifier un kiff?
Alors, je n'ai rien inventé, je n'ai fait que le nommer comme ceci. Il s'agit en fait d'une émotion qui s'appelle la gratitude, que nous pouvons ressentir et qui consiste, quand quelque chose de chouette se passe, par exemple cette interaction avec le chauffeur d'autobus, de se dire « Oh là là, pour ça, merci !» Parce que soit je laisse passer comme si ça ne s'était jamais produit, soit je me dis « mais merci pour ça ». Ça consiste à éprouver.
Et je dis merci à qui, du coup?
Eh bien alors, je dis merci soit à quelqu'un, si quelqu'un a fait quelque chose pour moi. Je dis merci à la vie, parce que parfois, tac, il se passe quelque chose et c'est génial. Le métro qui arrive en même temps que nous, à Paris, sur le quai, merci! Mais il y a plein de gens qui ne vont jamais se dire ça, qui vont juste regarder passer le métro sans s'arrêter. Ou alors, si on est croyant, on dit merci à quelqu'un là-haut. Il faut juste se rendre compte de la quantité de merveilles qui proviennent de l'extérieur de nous. C'est ça la gratitude. Et alors, c'est une émotion qui est tellement incroyable qu'elle a des répercussions physiologiques sur notre système immunitaire. Et on s'est rendu compte que plus on éprouve de gratitude et plus on l'exprime, plus on va vivre longtemps. Et on est même arrivé à le quantifier puisqu'on sait qu'on peut gagner jusqu'à 7 ans d'espérance de vie simplement parce qu'on est dans cet état de reconnaissance qui est de dire waouh, pour ça merci, il arrête de pleuvoir, merci.
Et donc juste le kiff comme ça, vivre ses kiffs et les identifier. Donc vous, ce que vous proposez, c'est quoi? C'est le soir, on se pose.
Oui.
Et il faut en trouver 3. Pourquoi 3 d'ailleurs?
Il faut, parce que c'est une bonne dose pour s'entraîner, pour commencer,
démarrer.
Puis c'est pas trop intimidant, 3, mais une fois qu'on, c'est un muscle en fait. Vous savez, notre cerveau avant tout s'intéresse au négatif. Le négatif fait toujours plus de bruit. Donc, si on ne fait aucun effort, on va voir que les trucs qui vont pas. Le fait que le métro est parti, qu'il s'est mis à pleuvoir. Mais est-ce que j'ai vu le métro qui est arrivé en même temps que moi? Ou est-ce que j'ai vu le rayon de soleil? Donc, plus on le fait, plus on va percevoir ces moments-là. Et vous demandiez comment peut-on faire pour être plus heureux? Eh bien, plus ce muscle-là est entraîné, plus il va percevoir le meilleur.
Jimmy?
Et cette méthode de kiff pour les adultes, est-ce qu'on peut aussi les appliquer aux enfants? Et si oui, à partir de quel âge?
Alors, de toute urgence, puisque plus on commence tôt, plus ils seront capables de percevoir le meilleur autour d'eux lorsqu'ils seront grands. La manière dont ça se passe, le meilleur instant, c'est le soir. Alors, on peut faire ça à table quand ils sont un peu grands, c'est-à-dire à partir de 5 ans, 6 ans, on est à table avec eux. Et on peut faire un tour de kiff, où chacun va dire, alors les parents commencent en disant, bon ben voilà, moi aujourd'hui, je voudrais dire merci pour, tac, 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 on en a 3. Et puis chacun va faire ça. Lorsque les enfants sont plus petits que ça, quand on les met au lit, on leur demande, c'est la dernière chose qu'on leur demande avant le dernier bisou, on leur demande quelles sont les 3 jolies choses de ta journée. Donc ça les oblige à aller le chercher, ça les oblige à les nommer, et vous savez à ce moment-là que vous êtes en train de créer ce circuit.
En plus, avant de dormir, c'est parfait.
Juste avant de dormir, ça va améliorer le sommeil, ça va prolonger le sommeil, l'approfondir, etc. Donc on commence dès qu'on peut.
Et oui, la psychologie positive, si on commence dès l'enfance, en fait, on sait si ça fait des adultes plus heureux, on l'a étudié ça
Elle n'existe que depuis 20 ans, donc il faut aussi qu'on va voir quelles sont les répercussions. Mais il est évident que plus nous entraînons nos propres enfants et leur cerveau à percevoir justement les choses formidables qui se passent dans leur vie, c'est ce que nous avons tenté de faire avec nos enfants. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ils sont adultes, puisque tout ça a commencé il y a un petit moment maintenant chez nous. Et ce sont des adultes qui sont capables de se réjouir de leur vie. Et ça, c'est quand même pas mal. Parce que quand on voit en plus dans cette culture qui est la nôtre, qui consiste, enfin, il est très stylé d'être contre absolument tout. Voilà, plus on est contre, mieux c'est. On a quand même besoin de leur apprendre à percevoir aussi le soleil, donc à le voir passer, comme ça ils auront le choix. Ils font exactement ce qu'ils voudront, mais au moins ils sauront le faire.
Jimmy ?
Et comment on fait en ce moment ? Parce qu'il fait moche, les enfants à la maison hurlent, ils crient, ils se battent entre eux quand
c'est
des frères.
Le week-end, c'est affreux compliqué en ce moment.
Comment on fait pour essayer de se créer une sorte de bulle de bonheur quand on ne peut pas trop sortir en ce moment ?
Jimmy est coincé avec trois garçons à la maison, vous imaginez ?
C'est la joie des vacances de la Toussaint. Tous les parents sont passés par là. Alors, je vais vous dire, ce qui est le plus difficile aujourd'hui, c'est de faire ça sans écran. Parce que là, très naturellement maintenant, il suffit de placer quelque chose qui bouge devant leurs yeux et ils se taisent immédiatement. La seule chose connue, c'est une activité commune où tout le monde va faire quelque chose en même temps, où vous les regardez faire. En fait, c'est d'être avec eux. Quand ils font autant de bruit, c'est qu'ils ont juste envie que nous soyons avec eux. Et ce qui est pénible pour nous en tant que parents, c'est qu'en fait, nous sommes dans la même pièce ou dans le même appartement et on n'a pas tellement envie d'être avec eux parce qu'on aimerait bien faire notre truc à nous.
Allez, prendre un bain tranquille, lire mon livre peinard, mais c'est pas possible.
Et donc, personne n'est heureux. Donc, même pour nous, si on a envie d'éprouver quelque chose de
juste
beaucoup plus sympa,
qu'ils arrêtent d'hurler, quoi,
ouais,
en fait.
Hein, et ben, on s'intéresse à eux.
Et en fait, c'est vrai que ça se calme assez vite quand on se met par terre à faire un jeu de société. Finalement, on n'a pas envie au départ. Et puis, vous jouez aussi au jeu de société, Jimmy, avec les petits ?
Non, mais vous avez raison. C'est vrai, dès qu'on se pose avec, hier soir, voilà, il était un peu agité. Je me suis assis 10 minutes avec lui. Ouais. Ces 10 minutes simplement ont suffi à le calmer.
Et puis après,
il a été se coucher.
C'était un micro moment d'amour.
Et c'est vrai, il était très content. Non, vous avez raison. Ça tient à rien, en fait. Pas grand chose.
C'est tout petit.
Je sais que vous dites aussi que le bonheur, il passe aussi par l'assiette, parce qu'on mange. Est-ce qu'il y a des aliments vraiment comme ça qui nous rendent plus heureux que d'autres ?
Alors, les aliments qui vont nous rendre plus heureux sont d'abord ceux que nous aimons. Ensuite, il y a une petite croyance, avec l'hiver, on se dit « Oh là là, quand ça va pas, on a envie de manger des choses grasses, etc. » Alors ça, non, ça ne va pas fonctionner malheureusement.
Pourtant, la raclette, ça fait du bien, non ? Je sais pas.
Ouais, sur le moment, après, on la paye un peu, on dort moins bien. Non, vous savez, les aliments intéressants, alors ce ne sont pas les plus excitants, mais ce sont tous les légumes verts. Pourquoi ? Parce qu'ils contiennent plus de vitamine B6. Et la vitamine B6 privilégie la fameuse sécrétion de ces neurotransmetteurs dans le cerveau, la sérotonine,
On
cherche du vert, on cherche des choux, on cherche du cru, on cherche du cuit. Oui, mais on cherche du vert.
Les carottes, quand même, ça rend aimable, non ?
Alors, les carottes, plus que de rendre aimable, c'est démontrer, rendre sexy.
Ah.
C'est hyper intéressant. On a fait une étude comparative où il y a des gens qu'on a enduits d'autobronzant et puis il y a des gens auxquels on a fait manger des carottes pendant 3 semaines. Voilà, tous les jours, ils en mangeaient un petit peu. À la fin, on les prend en photo, on envoie les photos et on demande à des gens qui ne savent absolument pas ce qu'ils sont en train de... Enfin, qui ne savent pas faire la différence entre les deux, de définir, choisir quels sont les visages les plus sexy dans les photos. Et ça a toujours été des gens qui avaient mangé des carottes. Donc, on est capable d'affirmer que les carottes rendent sexy.
Donc, du vert et des carottes
c'est
pour
ça.
Être heureux. Merci beaucoup, Florence.
Oui, parce que le sexe rend heureux.
Ah, aussi, ouais, très
c'est
bien
ça.
D'être venu sur notre plateau. Grâce à vous, on a plein d'outils pratiques et donc aussi des carottes, du vert. Il faut manger tout ça. Plein de trucs et astuces à mettre en place dès aujourd'hui pour tenter d'être plus heureux. Je rappelle que vous êtes auteur de 3 kiffs par jour, disponibles en poche chez Marabout. Merci encore.
Merci. Europe.